Unitaire, au cœur de l'action des défenseurs de l'environnement. Une émission de Michel Forst, rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, et Magali Lafourcade, magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, produite par Amicus Radio.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour.
Dans cet épisode, nous aborderons la situation des défenseurs de l'environnement confrontés aux menaces des entreprises internationales. Nous évoquerons la nature de ces menaces et la protection que le mandat Arius peut leur apporter. Nous aborderons ainsi les enjeux de l'extraterritorialité. Depuis le premier rapport des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, publié par Michel Forst en 2016, les menaces, les attaques, les meurtres à l'encontre des défenseurs et des communautés locales n'ont jamais été aussi nombreuses. Selon le dernier rapport de l'ONG Global Witness, près de 1500 défenseurs ont été tués depuis les accords de Paris qui ont été conclus en 2015. C'est là une des raisons principales qui a poussé les États parties à la Convention d'Aarhus à établir ce nouveau mandat de réaction rapide pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses des défenseurs de l'environnement menacés par les entreprises internationales. Dans cet épisode, nous revenons sur les menaces, leur nature et les effets sur l'action des défenseurs. Nous aborderons l'un des aspects les plus originaux du mandat de Michel Forst, l'extraterritorialité. L'extraterritorialité, c'est la possibilité d'étendre la protection offerte par le mandat aux défenseurs de l'environnement qui sont menacés par des entreprises agissant dans des États qui ne sont pas partis à la Convention d'Aarhus, mais dont leur siège social est situé dans l'un des 47 pays qui ont ratifié la Convention. Michel, quel lien ton mandat fait-il avec l'action des entreprises ?
Alors c'est en lisant les textes fondateurs du mandat avec mon équipe qu'on s'est aperçu qu'au-delà des menaces que les États font peser sur les défenseurs de l'environnement, également d'autres acteurs qui sont à leur acteur beaucoup plus dangereux que les États, qui sont les entreprises et les banques d'investissement. Et donc en creusant les textes, en discutant avec le comité de conformité, le Compliance Committee, on s'est aperçu effectivement que je pouvais non seulement intervenir auprès des États, mais également auprès des entreprises internationales, et singulièrement auprès d'entreprises qui interviennent à l'étranger, qui opèrent à l'étranger, et qui sont, lorsqu'elles sont en Afrique, en Asie, en Amérique latine, beaucoup plus dangereuses que les États.
Et alors, quel constat dresses-tu, en fait, quant aux menaces que ces entreprises, ces multinationales font subir aux défenseurs ?
Alors d'abord, ce que racontent les défenseurs au quotidien, c'est qu'ils sont menacés directement et ils nomment les entreprises qui sont les auteurs des menaces. Soit les entreprises elles-mêmes, soit leurs sous-traitants, leurs contractants, ou les forces de sécurité qu'elles emploient pour protéger leurs installations. Et dans plusieurs pays... Des forces de sécurité privées et publiques. Parce que malheureusement, on voit que dans quelques pays en Afrique, en Amérique latine, eh bien, le poids des entreprises est tel qu'ils arrivent à privatiser les services publics, notamment la police. Et donc on a des policiers qui sont en uniforme de police le jour et qui le soir mettent en uniforme privé pour protéger l'entreprise. Et donc ils nous racontent au quotidien les menaces auxquelles ils sont confrontés, arrestations arbitraires au moment de manifestations, arrestations préventives lorsqu'on sait qu'ils s'organisent pour préparer une manifestation, donc des raids dans les locaux des ONG, des saisies de biens de particuliers, et puis après toute la panoplie en fait, de menaces qui pèsent sur les défenseurs, au-delà des arrestations arbitraires, de nombreux cas de disparitions forcées involontaires, donc on voit malheureusement dans beaucoup de pays.
Des intimidations, des agressions physiques, et aussi ça peut aller jusqu'aux assassinats ciblés.
Exactement, tout à fait.
Alors toutes ces menaces, bien sûr, elles pèsent sur l'action des défenseurs. Comment tu observes leur façon d'être résilient vis-à-vis de ces menaces, puisqu'il y a l'action directe sur soi, mais il y a aussi ce que ça fait peser sur le groupe qui est animé de la même cause.
Oui, parce qu'effectivement, donc les défenseurs s'organisent, soit en coalition, soit de manière plus formelle en créant une organisation gouvernementale, une petite organisation, soit un mouvement social pour essayer de se protéger, de se défendre. Mais ce qu'ils nous disent, c'est que les menaces sont généralement des menaces plus générales, non seulement sur un individu. Bien évidemment, les entreprises ou leurs contractants visent d'abord les leaders d'opinion, celles et ceux qui sont capables d'emporter l'adhésion d'une majorité, d'un village, d'une communauté locale, d'un groupe de population autochtone. Mais bien évidemment, les menaces pèsent sur l'ensemble de la communauté, d'où parfois le besoin d'avoir des protections non seulement individuelles, mais des protections collectives qu'on a à l'heure actuelle essayé de développer pour être plus efficace quand un village tout entier est menacé par une entreprise internationale.
Est-ce que tu peux donner cet exemple-là, expliquer un petit peu comment un village en entier peut être sous la coupe d'une menace d'une entreprise ?
Oui, parce que les entreprises sont assez subtiles, donc elles commencent par viser quelques villageois ou quelques membres d'une communauté paysanne, une communauté autochtone, et s'apercevant que ça n'est pas suffisant, c'est tout le village qui est ensuite menacé. Et donc on a des villages qui, par exemple, sont brutalement encerclés par la police, avec un raid visant à fouiller toutes les maisons, toutes les cases, à emporter du matériel qui peut être compromettant, des documents, du matériel, des appareils photo, des téléphones, des ordinateurs, et ensuite pour venir fouiller dans ces outils et découvrir des éléments de preuve qui pourraient montrer que ces militants ou ces défenseurs de l'environnement ont des visées plus graves, notamment de sabotage. Et donc c'est sous le prétexte du sabotage qu'on organise des grandes opérations de raid contre un village tout entier.
Alors, comment interagis-tu avec ces entreprises internationales ?
Alors, d'abord, je le fais de manière extrêmement prudente, concertée, parce que c'est un enjeu pour le mandat qui est en train d'être créé. Et donc, j'évite de faire en sorte que le mandat soit mis en péril par des actions qui ne seraient pas assez concertées. Donc, je ne prends pas à l'heure actuelle tous les cas que je reçois. Donc j'essaye de prendre des cas un peu emblématiques de situations que je rencontre de manière plus endémique, dans différents domaines, par exemple de l'industrie extractive, ou bien de la pêche industrielle, ou bien de l'agro-business, la déforestation, l'agroalimentaire également, pour essayer d'approcher le dossier de manière progressive et faire en sorte que mes actions que je mène réussissent d'abord et soient ensuite une menace pour les entreprises qui comprennent l'intérêt qu'elles auront à anticiper sur d'éventuelles atteintes qu'elles font peser sur les défenseurs de l'environnement. Et donc, à l'heure actuelle, on a quelques dossiers un peu emblématiques. Beaucoup ne sont pas publics à l'heure actuelle, parce qu'encore une fois, les lettres d'allégation que j'envoie aux entreprises ont vocation à être publiques, mais parfois je les garde un peu quelques temps, parce que je sens que l'entreprise réagit plutôt bien à mon action, et donc j'essaie ensuite de continuer le travail pour avoir des résultats. Le principal objectif du mandat, c'est d'obtenir des résultats. C'est pas uniquement de publier des lettres d'allégation et de recevoir une réponse d'entreprise. Je veux montrer qu'il est efficace pour protéger un individu, une communauté, un peuple autochtone.
Oui, parce qu'il faut aussi se rappeler que tu es le premier titulaire de ce mandat-là et qu'il s'agit, quand on sait la puissance des groupes privés, il s'agit de capitaliser sur une expérience acquise qui fonctionne pour éviter de faire que ce mandat soit contesté par les États qui seraient contestataires à la demande des grands groupes. Donc tu es dans cette démarche à la fois concertée, prudente, mais aussi de faire la preuve de l'efficacité du mandat pour pouvoir après opposer des arguments rationnels face à ceux qui pourraient contester l'existence même de ce mandat.
C'est exactement ça en fait. À l'heure actuelle, on a quelques États qui n'avaient pas anticipé le fait que j'aurais la possibilité également de travailler sur les entreprises, notamment les entreprises dont le siège est l'un des pays de la zone Aarhus, et qui en fait découvrent avec surprise qu'elles reçoivent des copies de lettres d'allégation qui concernent une entreprise qui est basée sur leur territoire. Et encore une fois, j'utilise les mêmes méthodes que pour tous les autres, mes autres activités, c'est-à-dire je consulte d'abord les défenseurs, et donc c'est parce que je les ai consultés qu'ils m'ont donné des cas d'entreprises qui les menaçaient, et j'organise au mois de septembre prochain deux grandes consultations, l'une à Cotonou au Bénin, dans laquelle j'invite les défenseurs d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest à venir me rencontrer, et j'invite uniquement des défenseurs qui m'apportent la preuve qu'ils sont menacés par une entreprise européenne. Donc le choix est capital. Et ensuite, j'organise en Colombie, à Bogota, à la fin du mois de septembre, une consultation similaire dans laquelle j'invite des défenseurs de l'Amérique latine et des Caraïbes qui sont menacés par une entreprise européenne, française, espagnole, allemande, suisse, norvégienne, à venir me rencontrer pour que j'écoute leurs témoignages, avec l'idée de faire un rapport qui sera adressé aux États en disant « voilà ce que j'ai entendu ». Voilà ce que vous devriez faire, comment mieux utiliser les instruments à votre disposition pour anticiper les menaces et mieux protéger les défenseurs, notamment la fameuse directive sur le devoir de vigilance qui va constituer pour moi un élément extrêmement important d'influence sur les États qui doivent mieux contrôler les entreprises qui opèrent à l'étranger.
Voilà, donc pour qu'on comprenne bien, c'est que parmi les 47 États qui ont ratifié la convention, il y a aussi une organisation internationale, c'est-à-dire l'Union européenne, qui a elle-même rejoint la convention. Et donc, quand tu expliques la directive européenne, c'est à la fois vis-à-vis des États de l'Union européenne, mais c'est aussi l'Union européenne elle-même qui doit respecter la convention Aarhus.
Tout à fait, exactement ça. En fait.
Est-ce que tu peux donner l'exemple d'une entreprise en particulier?
Oui, alors je vais prendre peut-être une entreprise qui n'est pas de l'Union européenne, parce que c'est un dossier un peu problématique. Il s'agit d'un cas d'un journaliste du Guatemala, un journaliste d'investigation très connu qui s'appelle Carlos Schock, et qui nous a raconté qu'il était menacé par une entreprise suisse qui s'appelle Solvay, entreprise chimique dont le siège est en Suisse, et qui l'a menacé à plusieurs reprises, soit physiquement, et qui en fait l'avait traduit en justice pour diffamation, donc un procès Bayon au fond. Donc j'ai écrit
l'exemple de slap, donc
de ce qu'on appelle les procès Bayon, et donc ayant entendu le témoignage, ayant entendu également des témoignages concordants de la part d'ambassadeurs du pays dans le pays concerné, j'ai décidé d'écrire une lettre d'allégation à l'entreprise Solvay avec une copie au gouvernement suisse, bien sûr, pour l'informer du fait que j'envoyais une lettre d'allégation, et l'entreprise a répondu immédiatement. Une très très longue réponse, très détaillée, dans laquelle d'abord ils essayaient de contester la compétence extraterritoriale du mandat, et ensuite répondre sur le fond en disant voilà ce qui s'est passé réellement, on a mené une enquête nous-mêmes auprès de la filiale, et donc après enquête, on a décidé de finalement abandonner les charges, et donc il n'y aura plus de procès à l'encontre du journaliste. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise va plus loin. Ensuite, c'est qu'elle a accepté le principe d'une rencontre à Berne. Donc, je suis allé au début du mois de juin à Berne rencontrer l'entreprise pour en parler avec eux et voir de quelle manière, en fait, cette lettre d'allégation et ensuite l'action menée par Solvay pourra inspirer également d'autres entreprises. Et mon idée est de faire de cette affaire Solvay contre Carlos Schock au Guatemala une opération un peu emblématique dans laquelle je montre que le mandat est efficace, il a eu un effet, mais que l'entreprise également a décidé de changer ses pratiques et donc donner des instructions à ses filiales dans le monde pour opérer de manière un peu différente. L'idée, c'est qu'une bonne politique développée par une entreprise peut-être inspirer également d'autres entreprises. Et c'est un dossier que j'ai présenté également à d'autres occasions. Donc, je suis allé également au mois de juin à Chicago, à une grande réunion qu'on appelle le Consumer Good Forum, donc une organisation de grandes entreprises internationales, dans laquelle j'ai pu partager l'exemple du Guatemala et donc recueillir l'avis d'autres entreprises internationales sur la bonne pratique. Et je veux dire que j'ai eu un retour intéressant de la part de quelques entreprises européennes qui m'ont dit qu'ils aimeraient suivre avec moi le cas dans d'autres pays.
Oui, donc ça permet d'installer vraiment et de faire l'exemple par la preuve de l'efficacité. Et avec les autorités suisses, j'imagine que tu as aussi échangé, ça a dû les intéresser cette situation.
Voilà, donc lors de cette même journée à Berne, au début du mois de juin, j'ai pu rencontrer non seulement le ministère de l'Environnement, puisque le mandat est un peu rattaché au ministère de l'Environnement, mais également rencontré le ministère des Affaires étrangères, et j'ai rencontré toute l'équipe, donc 4 personnes, qui traitent la question des droits humains à l'étranger, le rôle de la Suisse à l'étranger, qui donnent des instructions aux ambassades suisses à l'étranger, mais qui également a le portefeuille sur les défenseurs en général, que la Suisse essaye de mieux protéger à l'étranger. Et donc je trouve que le dossier, il a un côté un peu emblématique, et j'ai envie, il faut d'en faire un cas d'école, de le populariser, pour qu'il serve d'exemple pour d'autres entreprises et d'autres pays.
Alors, ce qui est original dans ce mandat, c'est cette extraterritorialité. Donc, il faut aussi donc, non seulement les États s'y habituent, mais aussi les entreprises qu'elles s'y habituent, puisque c'est quelque chose de très original. Je ne vois pas d'autres cas de cette nature. Comment tu arrives à faire comprendre que ton mandat s'applique, la protection s'applique dans des États qui ne sont absolument pas, ni de près ni de loin, signataires de la Convention d'Aarhus, du simple fait qu'il y a un lien de rattachement de l'entreprise avec un État signataire?
Alors d'abord parce qu'il y a... D'abord, c'est pas moi tout seul qui le décide, encore une fois. Donc, j'ai avec moi de grands alliés, notamment le comité de conformité, donc le compliance committee de la Convention d'Aarhus, qui m'a confirmé.
Les textes, hein, voilà.
J'ai des textes qui le confirment. Et également, par le passé, également des textes du comité de conformité qui a adressé aux États, qui montrent que les obligations s'imposent non seulement aux États, mais à toute entité sous leur contrôle. Et donc, se pose la question du contrôle exercé effectivement par un État sur les entreprises qui opèrent à l'étranger. Donc, et là, là, on a toutes les discussions au sein des Nations Unies, les principes directeurs développés par John Logie sur protéger, protect, respect, remedy, tous les textes dont on a déjà parlé dans ce...
Sur les entreprises et les droits de l'homme.
Voilà, donc on a un grand nombre de discussions internationales qui vont dans le sens, effectivement, d'une plus grande obligation pour les entreprises d'être plus vertueuses, plus respectueuses des défenseurs. Et puis on a tout...
C'est ça, tout au long de la chaîne de valeur. Donc ça joue aussi sur les sous-traitants et les sous-sous-sous-traitants des sous-traitants.
Donc on a les Nations Unies, on a l'OCDE également, donc avec les points de compte, les PCN nationaux.
Les points de contact nationaux, l'OCDE.
Les points de contact nationaux qui, en fait, ont également un travail de monitoring sur le sujet. L'OCDE a également développé des lignes directrices pour les entreprises. Donc on a toute une batterie de textes qui vont converger dans le même sens. Et on a ce fameux instrument international sur les entreprises et les droits humains qui est à l'heure actuelle en négociation aux Nations Unies, qui comportera sans doute un élément supplémentaire pour renforcer le poids de nos mandats aux Nations Unies sur les entreprises internationales.
Alors je voudrais revenir sur l'Union Européenne, puisque donc la spécificité aussi c'est d'avoir l'Union Européenne comme entité membre de la Convention d'Aarhus, puisqu'elle a ratifié. C'est pas la première convention qu'elle ratifie, mais c'est toujours très intéressant de voir comment une convention s'applique à une entité qui est composée elle-même de 27 États. Et donc j'en déduis que cela implique que toutes les institutions européennes sont liées par la Convention d'Aarhus. Comment ça se passe avec les banques? Je pense à la Banque européenne de reconstruction et de développement, la BERD, et puis la Banque européenne d'investissement. Quelles sont les implications pour ces banques-là?
Alors très clairement, en fait, et là les textes sont d'une limpidité absolue, la Convention d'Aarhus s'applique aux États et aux institutions qui sont placées sous leur contrôle. Et donc pour l'Union européenne c'est pareil, donc l'Union européenne a ratifié la Convention, ce qui veut dire que les deux banques dont on vient de parler, la Banque européenne d'investissement et la Banque de reconstruction et de développement, sont aussi liées. Et donc mon idée est maintenant d'approcher les banques, puisque bien évidemment elles financent des gros projets structurants sur le développement, sur la reconstruction, dans des pays dans lesquelles elles interviennent, investissement également, donc elles investissent sur des projets, et donc il faut que les investissements qu'elles font sur le développement, sur la reconstruction, pour financer également des projets structurants dans les pays dans lesquels elles opèrent, soient respectueux des obligations de la Convention d'Aarhus. Et donc mon idée est maintenant d'approcher ces banques avec des questions au fond. Qu'est-ce que vous faites? Comment avez-vous pris en compte la ratification par l'Union européenne de la Convention d'Aarhus? Est-ce que ça a eu des implications sur votre travail? Et notamment en matière de protection des défenseurs, comment voyez-vous la question primordiale de l'accès à l'information, de la participation du public et de l'accès à la justice, qui sont les trois piliers de la Convention d'Aarhus? Donc pour l'instant, je n'ai pas de réponse. J'espère me rendre bientôt au siège de ces deux banques pour dialoguer avec elles sur la manière dont elles vont, où elles ont mis en œuvre les obligations qui de la Convention d'Aarhus.
On sait que par exemple pour les fonds européens qui sont à travers le FEDER, à travers le FSE, tous ces fonds-là qui sont alloués aux États ou aux régions, il y a une conditionnalité de respect de l'état de droit, respect des droits humains, respect des conventions internationales des droits de l'homme auxquelles l'Union européenne est partie. Je pense à la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Est-ce que tu penses que tu pourrais proposer qu'il y ait une conditionnalité des fonds versés par ces banques d'investissement et de développement autour de la protection des défenseurs, que ça pourrait être une ligne de politique envisageable?
Alors la première étape, c'est d'abord d'instaurer un dialogue avec elles. Et bon, je sais d'ores et déjà qu'elles sont ouvertes au dialogue, donc elles ont répondu favorablement à l'idée d'avoir cette discussion. Ma première étape sera ensuite de voir ce qu'elles font, comment elles ont pris en compte les obligations qui naissent de la Convention d'Aarhus, et après de voir les limites de leur propre action et voir si on peut proposer des mécanismes plus contraignants, plus utiles pour les défenseurs. Et d'abord de savoir si effectivement la question même des défenseurs a été prise en compte. Le fait que dans la Convention d'Aarhus a été mise en place ce nouveau mécanisme de réaction rapide sous la forme d'un rapport spécial, est-ce que c'est une création qui a eu un impact chez elles ou chez eux? Est-ce que par exemple, ils ont développé une stratégie propre à la protection des défenseurs ou un plan d'action? Donc on verra ce que me répondent les banques et ensuite je déciderai avec elles de quelle manière on peut leur faire des propositions utiles pour anticiper les risques auxquels les défenseurs sont confrontés.
Merci beaucoup. Ce que je retiens de cet échange avec Michel Forst, c'est que les multinationales sont très puissantes et qu'elles peuvent susciter des menaces, des intimidations, des dangers pour les défenseurs qui sont extrêmement soutenus. Face à cela, la stratégie du mandat, c'est d'abord d'agir toujours de façon très concertée pour expliquer cette extraterritorialité qui est une dimension tout à fait innovante de ce mandat-là et expliquer que là où les entreprises agissent, le mandat peut assurer une protection aux défenseurs. À partir de cas très emblématiques, l'idée est de construire des bonnes pratiques, faire qu'il y ait des entreprises qui changent leur activité, qui se comportent mieux avec les défenseurs et bâtir sur cela une sorte de modèle à faire valoir auprès des autres multinationales et des États qui sont aussi partie prenante de cet échange entre les Nations Unies et les entreprises. Finalement, la Convention Aarhus, c'est 47 États, mais on pourrait dire que c'est tout autant le monde, puisque même les États dans lesquels les multinationales agissent, qui ne sont pas partis à la Convention, là aussi, la protection des défenseurs s'applique.
Cette émission a été préparée et présentée par Michel Forst et Magali Lafourcade, produite par Amicus Radio. Vous pouvez écouter librement toutes nos émissions sur le site d'Amicus Radio et vous abonner à ce podcast sur les plateformes d'écoute pour ne manquer aucun épisode.